Charlie Treille, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'Orphéon de Luz. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que l'Orphéon ? Vous m'avez dit, avant que j'allume le micro, qu'ici, dans la vallée du Pays Teuil, eh bien, de Gavarnie, tout le monde vous connaissait et tout le monde vous appelle Charlie. Mais attention, les auditeurs de Radio Présence qui sont à l'autre bout de l'Occitanie ne vous connaissent pas. Alors présentez-nous. Et vous, Charlie, et puis l'Orphéon de Luz.
Voilà, alors Charlie, bon, évidemment, le surnom de la vallée, mais surtout lorsqu'on me pose la question de l'Orphéon, je vais synthétiser et résumer parce qu'il y a tellement d'histoires. 158 ans cette année, l'Orphéon en deux mots, pour être bref, notre parrain indirectement, c'est Napoléon III.
Carrément.
Alors, on a un socle très solide. Et puis surtout, bon, l'Orphéon ici colle à la vallée. On défend un patrimoine, une identité. On est vraiment le support. Et on nous appelle aussi l'ambassadeur de la vallée. Et surtout, l'image pour représenter le Pays Teuil et les Pyrénées, puisqu'on va au-delà du Pays Teuil.
Alors, est-ce qu'il faut comprendre que l'Orphéon a été créé pour impressionner Napoléon ? Non. Alors c'est Napoléon qui a souhaité, qui a initié, qui a lancé cette idée.
Alors pour rentrer dans l'histoire, Napoléon est venu deux mois après la bataille de Solferino, qui était à la frontière autrichienne. Il est venu faire la cure avec l'impératrice Eugénie. Ils sont venus faire la cure et ils ont été reçus par des chanteurs locaux, mais qui n'étaient pas structurés, des chanteurs locaux qui carrément ont honoré cet instant. Il a trouvé ça tellement bien. Quand il est revenu, ça c'était en 1859, il est revenu en 1863 inaugurer le pont Napoléon et à nouveau ces chanteurs ont marqué l'événement et 4 ans après naissait l'Orphéon.
Alors l'objectif c'est de transmettre votre patrimoine à travers ces chants qui sont vraiment des chants d'ici, écrits et composés par des gens de la montagne en tous les cas.
Oui, parce que de toute façon, le chant est un moyen de communication privilégié et ces chants ont été écrits par des bergers, des auteurs. Après, bon, on est aussi solidaire des autres vallées. Donc il y a des chants de la vallée de la Mongie, de Bagnères. Évidemment, il y a une grande solidarité et réciproquement, on chante des chants de chaque vallée. Mais enfin, ici, le point d'honneur, c'est de défendre des chants qui racontent l'histoire de la vallée, puisqu'en définitive, il y a des bergers qui ne sont jamais sortis de cette vallée. Ils exprimaient leur manière de vivre et tous les bienfaits à travers des chants.
Alors comment vous expliquez que depuis l'époque de Napoléon III, eh bien, cette mission de l'Orphéon, eh bien, elle se soit perpétuée, transmise de génération en génération ? Comment ça se fait que ça marche ?
Alors c'est une très bonne question, dans la mesure où avant, bon, il faut dire aussi que les activités, les moyens de communication étaient vraiment limités. Alors c'était un point d'honneur de rentrer à l'Orphéon. Moi, j'ai pu côtoyer 53 ans d'Orphéon. J'ai eu le privilège de côtoyer des anciens. Et c'était un point d'honneur de rentrer et de porter la tenue de l'Orphéon. C'était vraiment... On avait la tête haute. Et puis, on était imprégné de défendre quelque chose, de coller à l'histoire de la vallée. Alors que, progressivement, bon, le recrutement s'est fait à petite cadence. Et là, actuellement, le problème qu'il y a, c'est qu'on arrive dans une phase où on n'a pas de recrutement de tranches moyennes, ainsi de suite, qui viennent plus dans l'esprit de défendre le terroir. Alors nous sommes à la recherche de ça, justement.
Alors, c'est étonnant ce que vous dites, parce que je vais me faire un peu l'avocat du diable, hein, mais alors, il y a quelques mois, Monseigneur Jean-Marc Mika, en visite pastorale, a traversé le Pays Teuil, a visité le Pays Teuil, et a rencontré beaucoup de jeunes, notamment de jeunes bergers, profondément attachés à leur patrimoine, à la culture locale. Ils sont là, pourtant, ces jeunes qui sont passionnés de l'histoire d'ici, qui sont des gens d'ici passionnés par vraiment leur histoire, qui ont vraiment ça dans les tripes, si je puis dire. Mais ils ne viennent pas chanter.
Voilà. Alors, le problème de ce que vous dites, je le partage totalement. Il y en a vraiment qui correspondent, qui ont le profil de rentrer à l'Orphéon demain, mais aujourd'hui, il se passe une chose, c'est que d'abord, les moyens de communication nous isolent, parce qu'avant, il y avait des cafés, on allait dans un café, il y avait des gens en vacances, et de suite, on chantait. Et à travers le chant, on repérait quelques voix, et on les faisait venir à l'Orphéon. Aujourd'hui, tout se passe par des portables interposés. Et alors, ce qui fait qu'il déjà, il faut aller l'épuiser dans un autre secteur. Mais sinon, il y a des gens totalement passionnés, mais quand on discute avec eux, leurs codes sont différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les contraintes, parce que bon, défendre un terroir, chanter à quatre voix techniquement, ça implique beaucoup de sacrifices.
Alors justement, ça c'est ma question suivante. Merci beaucoup pour la transition. Il faut une voix. Il ne faut pas forcément être un musicien expérimenté, avoir fait 10 ans de conservatoire, mais il faut avoir une voix et un cœur.
Moi j'inverserais, je dirais avant tout, il faut rentrer avec la passion. À partir de là, dans la mesure où on a...
Enfin, on peut être passionné, chanter faux, pardon.
Oui, c'est vrai.
Non, mais moi j'en connais quelques-uns, je ne dirais pas de nom, mais j'en connais.
Moi aussi j'en connais. Non, mais disons que dans la mesure où on rentre avec un minimum de voix et que vraiment il y a la sensibilité et la passion, ça se travaille. Et justement, on va plus facilement travailler dans un groupe comme l'Orphéon, structuré, avec des chants à quatre parties, avec une technique. Et là, on avance, on fait des progrès. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, moi, je les adore, de toute façon, je ne souhaite qu'une chose, en récupérer, mais ils ont d'autres codes. C'est différent. Ils veulent apprendre un chant, le chanter le lendemain, mais c'est des chants peut-être moins techniques, mais bon, qui sont jolis, hein, parce qu'il y a des chants fabuleux à deux voix, trois voix, mais ils ont d'autres codes. Alors aujourd'hui, mon gros travail à moi, avant de transmettre et de passer ma place, de laisser ma place, c'est surtout de quantifier ces jeunes-là, de discuter avec eux et de voir comment on peut trouver un compromis et le tout pour défendre la vallée et défendre les Pyrénées, parce que nos champs vont déjà beaucoup plus loin. Hein. L'Orphéon a beaucoup voyagé.
Vous êtes combien là en ce moment à l'Orphéon ?
Là aujourd'hui, nous sommes 20. Nous avons été 40, 45.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup. Et puis, bon, on a marqué quand même aussi notre empreinte. En 2011, on a chanté devant le pape à Rome. On a été chanté.
Vous y étiez ?
Et j'y étais, oui.
Et alors ?
Eh bien, c'est extraordinaire. En plus, en tant que président, avoir la position dans les invités d'honneur d'aller saluer le pape, c'est quelque chose d'énorme. Et là, même une petite anecdote. On était avec un tas d'invités d'honneur qui remettaient des cadeaux, certains gigantesques, et il y avait des joueurs de rugby. Et nous, j'étais avec le curé de Luz et de Lourdes de l'époque, Jean-François Duhart. Et on s'est retrouvés devant le pape. Comme on n'avait rien prévu, moi j'ai sorti deux CD de l'Orphéon, et les cardinaux qui récupéraient tous les cadeaux qu'ils mettaient de côté, ils m'ont demandé de les offrir directement au pape. Et alors j'ai une photo que je garde précieusement, où j'offre deux CD dans les mains. C'était Benoît XVI à l'époque, je lui remets deux CD dans les mains. Et voilà. Et ça a marqué notre histoire à notre niveau. Ça a été un moment extraordinaire qui reste gravé dans nos mémoires.
Alors, en plus de 53 ans de...
Moi, j'ai 53 ans d'Orphéon.
53 ans, c'est ça. Honnêtement, il n'y a jamais un moment où vous vous êtes dit « j'en ai marre, c'est toujours la même chose, on chante toujours la même chose, et puis à quoi bon, puisqu'on ne recrute pas d'ailleurs ». Qu'est-ce qui vous maintient, en fait ?
Alors, ma motivation, elle est d'abord l'amour du terroir, ça c'est incontestable. Et également, j'ai été passionné par autre chose aussi, le partage. Et j'ai voulu amener les gens qui chantaient à l'Orphéon et leur entourage, j'ai voulu les amener dans plein d'aventures, visiter la sortie quand même à Rome. Ça m'a pris un an de travail, vous vous en doutez que... Mais par contre, ça a été fabuleux parce qu'on a pu amener nos familles. On avait même, je vais vous faire rire, réservé le voyage. C'était à l'époque où Pau et Rome étaient plus réguliers.
Attention, vous touchez un point sensible là.
Et c'était le moment où Lourdes a repris ses droits. Et à Pau, le voyage que nous avions réservé, ils ont décidé qu'on ne pouvait pas l'annuler. Donc nous avons eu un avion pour nous et on a pu amener toutes nos familles, grand-mère et tout. Ça a été une aventure extraordinaire. Et j'ai eu le plaisir en tant que président de dire « montez dans notre avion ».
Bravo. Alors, encore deux petites questions, puis après je vous libère parce que je sais que vous êtes très demandé. D'abord, un mot quand même sur cette tenue, parce que puisque les auditeurs n'ont que le son, il faut quand même leur donner une description pour qu'ils aient un peu l'image. Parce que d'abord, est-ce que c'est la même tenue depuis le début ?
Alors cette tenue, moi je suis à l'origine de la tenue, puisque nous avons été la récupérer, du moins prendre le modèle, au château de Lourdes. C'est la tenue bigourdane, c'est un peu la tenue des gens du pays, mais seulement la ceinture rouge, c'était plutôt la ceinture de sortie, de grande sortie, alors que souvent la ceinture était... Mais on a respecté le principe de la ceinture, le gilet, et c'est un mélange entre tenue bigourdane et tenue des guides de montagne. Puisque l'histoire des guides dans la vallée aussi a été... Enfin, si je commence là-dedans...
On va vous inviter pour faire une série sur une année entière sur Radio Présence. Il y a deux pompons rouges à votre cou. Ça, c'est marrant, ça, c'est rigolo, ces deux petits pompons rouges.
Alors, dans les tenues, la tenue bigourdane au château de Lourdes fait partie de... Bon, alors, les pompons, c'est le côté un peu, disons, traditionnel, folklorique. Puisque bon, les pompons, pour travailler, ils ne mettaient pas de pompons autour du cou. Mais c'est le côté... Bon, c'est pour marquer une identité aussi. Et partout où nous allons, on marque notre empreinte déjà en premier par la tenue.
Et puis le fameux béret. Alors, il est marron, le vôtre. Comme le gilet.
Alors, le béret marron, ici, plutôt traditionnellement, ils avaient un béret noir.
Et oui, c'est pour ça, je suis un peu surprise.
On a voulu symboliser aussi la Bigorre, puisque bon, nous sommes tout à fait solidaires et attachés à la Bigorre. Donc, on a pris le béret marron, mais ça aurait pu être un béret noir. C'est le béret le plus traditionnel ici.
Allez, ma dernière question. Aujourd'hui, vous êtes au micro de Radio Présence, puisque l'Orphéon a chanté pour cette messe, hein, qui est à la fois la messe du pèlerinage annuel au sanctuaire Notre-Dame-des-Asses, mais aussi, cette année, la messe du pèlerinage diocésain que Mgr Mika a voulu. Alors, je le rappelle, hein, on est allé déjà dans plusieurs sanctuaires dédiés à la Vierge Marie. Aujourd'hui, 6 septembre, nous sommes à Eas, et l'Orphéon a chanté la messe. Pour vous, on entend quand même que vous êtes sensible aux grâces que vous recevez à travers le chant. Alors, pour vous chanter aujourd'hui ici au sanctuaire Notre-Dame-des-Asses avec tous ces gens du diocèse, de la Bigorre et des Quatre Vallées, qu'est-ce que ça vous fait au fond du cœur ?
Alors, d'abord, la localisation, Notre-Dame-des-Asses, c'est un symbole fort dans l'histoire de la vallée, puisqu'on revient sur le côté patrimoine. C'est un symbole très fort et cette histoire a toujours marqué les gens de la vallée. Quand on pense que cette chapelle a été emportée 3 fois par l'avalanche. Donc, tout ça. Alors, venir faire un pèlerinage à Eas, de toujours, ça a été de tout petit, ça a été quelque chose d'exceptionnel.
Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous êtes vraiment un enfant du pays.
Oui, oui, oui. Oui.
Donc ce sanctuaire Notre-Dame-des-Asses, vous le connaissez très bien.
Oui, oui, tout à fait. On connaît même l'histoire. Mais je veux dire que malgré tout, chaque fois qu'on revient là, il y a quelque chose qui nous prend. Et raison de plus dans des conditions comme aujourd'hui, avec le monde qui était là et le plaisir de chanter devant. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde. Et aussi, je ne parlerai pas de toute l'organisation, Monseigneur l'évêque. C'est encore un des grands moments de l'Orphéon.
Merci beaucoup, Charlie. Bonne continuation avec l'Orphéon et à bientôt sur les ondes de Radio Présence.
Merci, il n'y a pas de problème. Il suffit de le dire, on sera toujours là.
Vous pouvez nous chanter quelque chose pour nous dire au revoir. Un petit refrain.
L'Orphéon, c'est le peuple qui ne peut pas mourir.